Bienvenue à vous dans l'accent des autres. C'est l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics. C'est avec, comme d'habitude, la radio-télévision suisse RFI, Radio-Canada, France Inter et la RTBF. On va commencer aujourd'hui en Suisse parce que dans deux semaines, le 15 mai, les Suisses diront s'ils veulent participer au renforcement de l'Agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières Frontex, Pierre-Henri Chauffat.
Oui, car la Suisse en est membre à part entière. La gauche s'y oppose en raison des polémiques sur les refoulements de migrants. Un choix qui pourrait signifier notre sortie de l'espace Schengen.
En Afrique, cette nouvelle escalade entre les autorités maliennes et la France. Nicolas Sûr, le Mali accuse l'armée française d'espionnage et de subversion.
Oui, ce sont des vidéos diffusées la semaine dernière par l'état-major français et tournées dans l'ancien camp de l'opération Barkhane à Gossy qui ont provoqué cette nouvelle escalade.
En France, à présent, les suites de la présidentielle avec une rencontre qualifiée d'historique cette semaine. Pour la première fois, Karine Bécart, le Parti socialiste a accepté de s'asseoir à la table des négociations avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, un peu plus de 6 semaines des élections législatives en France, toute la gauche, des écologistes aux communistes, tente de sauver ce qui peut encore l'être. Et le PS, c'est vrai, semble presque prêt à se soumettre à la France insoumise. Alors qu'en pensent les militants ? Nous vous emmenons dans le Gers, un bastion socialiste depuis près d'un demi-siècle.
Au Canada, on va parler statistiques cette semaine avec de nouvelles données sur la population. Elles révèlent un certain changement au sein précisément de cette population canadienne, Benoît Audet.
Oui, les données du recensement nous montrent que la génération des baby-boomers perd du terrain au profit des millénarios.
Enfin, il avait 72 ans à peine, mais en Belgique, tout le monde savait qu'il n'allait pas bien. Nicolas Van Hunskrik, c'est un monument qui a disparu le week-end dernier.
Oui, le chanteur Arnaud est décédé victime d'un cancer du pancréas. Les hommages sont nombreux depuis 8 jours. Le chanteur avait souhaité que ses cendres soient dispersé dans la mer à Ostende, où il est né. Son dernier album sortira en septembre prochain.
Voilà donc pour les titres de cette semaine. Les médias francophones publics vous proposent donc l'accent des autres. Le patron de l'Agence européenne des gardes-côtes et gardes-frontières a présenté sa démission ce vendredi. Fabrice Leggeri était à la tête de Frontex depuis 2015. Il a régulièrement été accusé par des ONG de tolérer des refoulements illégaux de migrants. Lui-même avait parlé de schizophrénie entre la garantie de l'imperméabilité des frontières extérieures de l'Union et le principe de non-refoulement que les États membres peinent à respecter. Berlin a rapidement évoqué la possibilité d'un nouveau départ pour Frontex. Et c'est dans ce contexte donc que la Suisse, Pierre-en, débat de son rôle au sein de cette agence Frontex.
Oui, parce que, rappelons-le, la Suisse est membre de l'espace Schengen et participe à ce titre à Frontex. Elle est présente avec ses gardes-frontières sur le terrain aux confins de l'Union. Et comme les États partenaires ont décidé de renforcer l'agence, la facture s'alourdit pour tous les membres. La Suisse doit augmenter progressivement sa contribution de 24 millions de francs aujourd'hui à 61 millions dans 5 ans. Côté personnel, l'effectif helvétique au sein de Frontex passerait de 6 à 40 plein temps sur la même période.
Oui, il y a donc débat chez vous, Pierre-en, parce qu'un référendum a été lancé contre ce développement de l'agence.
Exactement, et le peuple tranchera le 15 mai prochain. Le projet est combattu par la gauche qui dénonce des refoulements illégaux et craint une fuite en avant avec ses nouveaux moyens. L'écologiste Lisa Mazon veut un changement de philosophie.
Cesser de faire de la migration une menace et cesser cette militarisation de la frontière qui mène de fait à la suspension du droit d'asile dont la Suisse est dépositaire. Donc nous avons aussi un rôle à jouer et ce rôle-là, ce n'est pas en disant oui, amen, comme ça se passe systématiquement, que nous allons le jouer.
Dire non pour faire changer les choses, donc, la centriste Isabelle Chassot réplique qu'il est préférable d'être membre du club pour le réformer, mais aussi pour assumer sa part.
Ça veut dire ne plus porter de responsabilité, se laver les mains de ce qui se passe à la frontière et le cas échéant d'éventuelles violations, alors que pour moi, le plus important pour la Suisse, c'est d'être au contraire avec les personnes qui subissent des violations et de pouvoir les dénoncer, ces violations.
Et à entendre Isabelle Chassot, dire non, cela voudrait donc dire sortir du club.
C'est un point controversé dans la campagne. Le gouvernement a très vite avancé le risque de perdre tous les acquis de Schengen. Les opposants assurent qu'il sera possible de revenir très vite avec une nouvelle proposition et donc d'éviter de s'auto-exclure de l'organisation. En l'état, la démission de Fabrice Leggeri que vous évoquiez pourrait bien être perçue comme un gage de réforme de Frontex et donc favoriser le camp du oui en Suisse.
Voilà, verdict donc dans 2 semaines, le 15 mai prochain. Ce nouvel épisode à présent de la profonde détérioration des relations entre Paris et Bamako. Le gouvernement malien accuse donc l'armée française d'espionnage et de subversion, Nicolas.
Oui, le gouvernement malien brandit les vidéos diffusées la semaine dernière par l'état-major français. Ces images ont été tournées le 20 avril par un drone qui survolait la base de Gossy, une ancienne base de Barkhane transférée la veille aux forces maliennes. On y voyait des hommes présentés comme des mercenaires russes enterrant des corps sur le site. Paris affirme qu'il s'agissait de faire croire que les Français avaient laissé sur place un charnier, une attaque informationnelle selon l'état-major. Mais Bamako, qui ni toute présence des combattants du groupe Wagner sur son territoire, assure que le drone espionnait en fait l'armée malienne. Le Mali accuse aussi l'armée française d'avoir diffusé de fausses images montées de toutes pièces.
Et que répond-on à Paris, Nicolas ?
Le ministère de la Défense conteste bien sûr cette version et dénonce une campagne de dénigrement permanente. Il a diffusé jeudi de nouvelles photos montrant des hommes blancs faire du sport sur l'ancienne base de Gossy, preuve supplémentaire selon lui de la présence de mercenaires russes sur place.
Et autre signe des tensions entre la France et le Mali, Bamako annonce la suspension définitive de RFI et de France 24 qu'elle accuse de violation de l'éthique et de la déontologie journalistique. Les deux chaînes, on vous en a parlé, ont été coupées récemment suite à la diffusion d'une enquête sur des exactions de l'armée malienne et de leurs supplétifs russes. Le groupe France Média Monde, qui chapeaute les deux chaînes, conteste vigoureusement ces affirmations et annonce porter plainte en diffamation contre le gouvernement malien. Il a comparé RFI à la tristement célèbre radio Mille Collines, la radio qui appelait au massacre des Tutsis pendant le génocide de 1994 au Rwanda.
L'accent des autres.
On va revenir un instant à présent sur cette réunion en France, réunion qualifiée d'historique. C'est la première fois que le Parti socialiste s'assoit à une table de discussion avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. À 6 semaines maintenant des élections législatives, l'heure est devenue bien trop grave. Après avoir enregistré son pire score à la présidentielle, moins de 2% pour Anne Hidalgo, il faut sauver ce qui peut encore l'être, à savoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Les premières tractations cette semaine se sont plutôt bien passées. Pas de point de blocage insurmontable, estime la France insoumise. Reste évidemment les militants socialistes. Sont-ils déçus, sont-ils résignés ou complètement abattus? Voici le reportage dans le Gers à Auch. C'est un vieux bastion socialiste. Reportage signé Hugo Charpentier.
Sans surprise, au premier tour de la présidentielle, Isabelle, comme d'habitude, a choisi le Parti socialiste.
J'ai voté à Anne Hidalgo.
Mais pour les législatives, que faire? Isabelle est plutôt favorable à une union à gauche.
Si ça peut faire avancer les idées de la gauche, oui, pourquoi pas.
Certains disent que ça signera la mort du Parti socialiste.
Mais qu'est-ce qui est plus important, la vie d'un parti ou les idées et le contre-pouvoir que l'on peut donner à Macron?
Vous êtes partagé alors?
Oui, vraiment, je suis partagé.
Lui aussi est tiraillé. Roland, 72 ans, très attaché à son parti.
Toute ma famille était radico-socialiste, SFIO. J'ai grandi là-dedans.
Alors oui, Mélenchon et la France insoumise, ce n'est pas vraiment son truc.
Les idées, ça va, c'est correct. Mais le personnage me déplaît beaucoup.
Mais selon lui, pour les législatives, il n'y a pas le choix.
Parce qu'on ne représente plus rien, hein, 2%. Que le PS aille tout seul aux législatives, il va faire 2-3 députés.
C'est aussi ce que pense Marie-Josée.
Oui, c'est la mort du PS tel qu'on l'entendait. Bon, voilà, je pense que maintenant, il faut penser à autre chose. Voilà, on est dans une nouvelle société. Les gens ont d'autres attentes. Il faut savoir un peu se renouveler. Je fais le deuil du Parti socialiste tel qu'il était auparavant. Hein. Voilà, faut pas se leurrer.
À Auch, militants et électeurs socialistes ne se font plus d'illusions. La campagne des législatives, ils préfèrent l'aborder avec lucidité.
Hugo Charpentier pour France Inter. Au Canada, à présent, on va se pencher sur les résultats du recensement. Ils sont publiés tous les 5 ans. Ces données sont toujours très attendues puisqu'elles permettent de faire le point sur les grands changements et les grandes tendances au sein de la population. Et Benoît, le recensement de 2021 n'y échappe pas. Il y a des données intéressantes.
Oui, la génération des baby-boomers qui est âgée de 56 à 75 ans est en diminution. Cette génération représente maintenant moins de 25 % de la population canadienne. C'est un recul de plus de 3 % en 5 ans.
Et maintenant, c'est la génération des personnes nées entre 1981 et 1996 qui s'impose.
Oui, les millénarios, comme on les appelle ici, leur population a augmenté de 8,6 % entre 2016 et 2021 et ils représentent maintenant le tiers de la population en âge de travailler. Donc, leur influence se fait sentir partout. Les millénarios sont aussi très urbanisés. Ils représentent plus du tiers de la population des centres-villes dans les grandes agglomérations canadiennes.
On notera aussi, Benoît, que la diversité de genre a fait son entrée dans le questionnaire du recensement de l'an dernier.
Oui, pour la première fois, Statistique Canada a intégré une question pour permettre aux personnes transgenres ou non-binaires de déclarer leur genre. Un peu plus de 100 000 personnes se sont déclarées transgenres ou non-binaires. Ça représente un tiers de 1 % de la population canadienne. Le Canada devient ainsi le premier pays à publier des données sur la diversité de genre dans un recensement national.
Voilà donc pour les dernières données du recensement au Canada avec Benoît Audet. On va refermer l'accent des autres cette semaine avec un accent, précisément, un vrai, l'un de ces accents uniques qui manque à tout le monde en Belgique et ailleurs depuis une semaine maintenant, Nicolas Van Neuskrik.
Arnaud est décédé le week-end dernier, victime d'un cancer du pancréas. Jusqu'au bout, il a chanté sur scène. Jusqu'au bout, il a enregistré de nouveaux morceaux. La musique, c'est ce qu'il faisait vivre depuis toujours.
Je veux être libre. Et pour être libre, j'ai trouvé une maîtresse qui ne m'a jamais trompé. C'est de la musique.
Les hommages se sont multipliés partout, en Belgique, de Bruxelles à Ostende, en Flandre, entre sa ville natale et sa ville d'adoption. Il incarnait une certaine image de la Belgique, celle qui ne se prend pas au sérieux, celle qui parle français, flamand, bruxellois, ostendu, comme il disait. Des hommages donc pour cette icône de la Belgitude qui a voulu que ses cendres soient dispersées en mer du Nord. Il nous accompagnera encore un peu puisqu'il était en train de terminer l'enregistrement d'un nouvel album. Il comportera notamment un duo avec Mireille Mathieu.
J'ai fait une chanson pour chanter avec Mireille Mathieu. Elle s'appelle La Paloma. J'aime la voix de Mireille Mathieu. Il y a quelque chose en dedans. C'est... Il n'y a personne comme elle.
Ce nouvel album sortira en septembre. C'était le dernier rêve d'Arnaud.
Alléluia.
Voilà, rendez-vous en septembre. Donc, en attendant, les fans pourront lui rendre hommage mercredi prochain dans une salle de concert de Bruxelles où il a joué à de très nombreuses reprises. Voilà pour l'actualité de la semaine. C'était l'accent des autres, vu par les médias francophones publics, les partenaires que sont Radio-Canada, RFI, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous, bien évidemment, si vous le souhaitez, la semaine prochaine.